Vous écoutez les Apatrides Anonymes sur les ondes de choc.ca, votre rendez-vous bimensuel pour tout savoir ou presque des enjeux d'immigration, de sécurité nationale et de racisme au Québec, au Canada et sur la scène internationale. Alors, Marie-Ève, au micro pour aujourd'hui avec vous et toujours aussi bien accompagnée par Mathieu d'abord en studio.
Bonsoir.
Bonjour Mathieu et Simon à la console.
Allô, allô. Allô tout le monde.
Alors, au programme de cette édition du 12 mars que nous décrétons aujourd'hui officiellement la fin du capitalisme grâce au coronavirus.
Bien sûr. C'est simple.
Alors, au programme aujourd'hui, les actualités internationales où nous nous tournerons vers les États-Unis et l'Europe. Également, les actualités nationales où Simon analysera pour nous deux rapports de Statistique Canada. Mais d'abord, juste après quelques notes musicales, on va retrouver Mathieu qui reçoit en entrevue Fabienne Présenté, qui est avec nous en studio également. Bonjour,
bonjour
Fabienne.
Bonjour.
De Voix juive indépendante pour discuter notamment de la campagne pro-israélienne basée sur une nouvelle définition de l'antisémitisme et autres sujets en lien avec l'occupation de la Palestine.
Oui, comme le disait Marie-Ève, nous avons une entrevue en début d'émission. C'est toujours agréable de commencer avec du contenu bien frais et bien d'actualité et bien sérieux aussi. Donc, Fabienne Présenté de Voix juive indépendante sur l'antisémitisme.
Oui. Qu'est-ce que j'ai dit?
Antisémitisme.
Ah oui, antisémitisme.
Juste pour préciser, ben oui. On va parler de ça, entre autres. Donc, on va parler, entre autres, oui, comme tu le disais, Marie-Ève, de cette campagne-là actuellement au niveau de la définition de l'antisémitisme, qui a l'air un peu technique, mais qui peut avoir quand même des conséquences importantes. On va parler aussi un peu de BDS, de la liste de l'ONU sur les compagnies qui collaborent à la colonisation dans les territoires occupés. Mais premièrement, Fabienne, bonjour.
Bonjour, bonjour.
Rebonjour.
Merci de me recevoir.
Ça fait plaisir.
De ce sujet tellement difficile.
Difficile, voilà, oui, difficile. Mais qui peut être très intéressant. Premièrement, avant qu'on commence sur le sujet, peux-tu décrire brièvement Voix juive indépendante?
Oui, avec plaisir. Voix juive indépendante, c'est vraiment un organisme. On a commencé en 2009 et on est vraiment un groupement qu'on dirait de base qui est un peu partout au Canada de juifs qui s'oppose à toute forme de racisme, donc que ça soit l'antisémitisme, l'islamophobie, anti-noir, anti-autochtone également. Donc c'est pour nous extrêmement important aussi de lier toute cette lutte antiraciste à la situation en Israël-Palestine, qui, comme vous comprenez, est un colonialisme racisme qui est extrêmement qui a des conséquences extrêmement désastreuses en ce moment.
Et qui est très symbolique aussi.
Et très symbolique.
Au niveau international et local, même si ça soit dans tous les pays du monde.
Voilà. Donc, on lutte à travers le Canada, justement.
C'est ça, hein? Vous êtes...
Pour vraiment sensibiliser les gens à une situation de grande injustice, mais aussi c'est une voix juive qui s'ouvre et qui se permet de parler justement en critiquant cette situation.
Oui. Ah oui, on pourra revenir là-dessus tantôt si on a le temps sur les débats que ça fait dans la communauté juive en général, mais ça doit être quelque chose d'assez complexe. Peut-être revenir, le prétexte était un peu à la fin janvier, l'opposition officielle de l'Hôtel de Ville de Montréal devait présenter une motion pour faire adopter une nouvelle, entre guillemets, définition de l'antisémitisme proposée par l'Alliance internationale pour la mémoire de l'Holocauste, le IHRA, dont on va parler aujourd'hui. Et finalement, ça a été retiré par le parti au pouvoir, le projet Montréal, qui ont voulu transférer la motion dans une autre commission, et l'opposition officielle en San Montréal a retiré la motion. Et vous étiez opposé, vous aviez organisé un rassemblement devant l'hôtel de ville, devant le conseil municipal. Qu'est-ce qui est le problème avec cette nouvelle définition de l'antisémitisme?
Ben, c'est une définition qui a pour but, si on peut dire, on va aller très très rapidement, qui a pour but de vraiment censurer toute critique de l'État d'Israël, critique des politiques israéliennes, et aussi de censurer tout appui aux Palestiniens. Autrement dit, ce n'est pas vraiment une définition qui a un focus sur l'antisémitisme, parce que si vraiment c'était le cas, on ferait pas comme on fait dans cette définition, qui est de rendre l'antisémitisme, ce que je dirais, extra-historique. Donc, on fait pas partie des autres racismes dans le monde. Ce qui, pour voix juive, est extrêmement important, c'est qu'on remet justement le racisme anti-juif parmi toutes les autres formes de racisme. Cette définition est quand même, comment je dirais, elle est quand même dangereuse dans la mesure où c'est une campagne menée par des intérêts donc pro-israéliens qui tentent vraiment de fermer, d'interdire toute possibilité de discuter. Alors, c'est pas simplement au niveau de national, international, au niveau de pays, c'est au niveau de municipalités, d'organismes, d'universités. Le Canada l'a adopté en 2019.
À la Chambre des communes?
À la Chambre des communes, mais ça fait partie de la stratégie contre le racisme, stratégie officielle du Canada contre le racisme de 2019. Ce qui est intéressant avec cette définition est qu'elle n'est pas contraignante au niveau légal. Donc, on est dans une espèce de flou qu'on pourrait dire artistique, que j'appellerais plutôt politique, qui est comme au conseil municipal de Montréal. Bon, si on l'adopte, quel est véritablement le poids?
Oui, les conséquences que ça peut avoir,
merci.
Comment on peut l'utiliser.
On peut l'utiliser. Et justement, bon, là, vous amenez un point très, très important, et cette définition est instrumentalisée pour vraiment clore... Faire taire les gens.
Mais c'est pas la première fois que des militants, militantes ou des organisations pro-israéliennes qui sont contre toute critique font ce genre de démarche-là pour faire taire les pro-palestiniens ou les palestiniens eux-mêmes. Depuis que BDS, entre autres, est
tout
là,
à fait.
On essaie de délégitimer BDS. Il y a des pays en Europe qui ont passé des législations contre BDS, la campagne boycott des investissements sanctions, faut préciser pour les gens. Et même l'auteur de la définition, un certain Kenneth Stern, est complètement dégoûté de l'utilisation qu'on fait de sa définition. Donc, qu'est-ce qui s'est passé exactement? Comment cette définition-là peut être établie, puis ensuite les gens peuvent l'utiliser comme ça de façon, puis ça a l'air d'être rendu au niveau international en plus.
Ça fait partie d'une longue histoire quand même qui aboutit aujourd'hui dans une campagne de blanchiment. J'aime pas trop le terme, mais vous comprenez ce que je veux dire, de blanchiment de l'État d'Israël. Autrement, de toutes ces pratiques, de toute la colonisation, de tous les sévices que vivent les Palestiniens sous occupation, on veut les nier. On veut faire en sorte que ça ne se voit plus. Alors, on appelle ça justement le Hasbara. Le Hasbara, c'est vraiment la propagande israélienne. Donc, c'est un mouvement, si on peut dire, qui s'est intensifié depuis maintenant 3-4 ans. Et quelque part, le UHRA, cette nouvelle définition, fait partie de cette... est appuyée par, justement, les organismes israéliens et pro-israéliens à l'extérieur, afin de vraiment, on le répète un peu trop souvent peut-être, mais clore ce débat et de faire en sorte que, par exemple, qu'on puisse même pas dire que le sionisme, qui est une idéologie nationaliste colonialiste, qu'on ne puisse pas critiquer le sionisme, qui est quand même l'idéologie
est fondée
l'État d'Israël.
Mais est-ce que ma question est plus sur comme est-ce que c'est parce que la définition comme telle est trop englobante que comment je pourrais dire, c'est-à-dire qu'est-ce qui fait justement que, c'est quoi l'élément nouveau de cette définition là qui fait que par exemple si on apporte des critiques antisionistes qui n'est pas synonyme d'être antisémite non plus.
Ça dépend.
Donc, mais est-ce que... Donc, comment... Qu'est-ce qui est nouveau dans cette définition qui permet de, d'englober, justement, et de faire ces amalgames et de clore le débat?
Bah, vous allez trouver un petit peu bizarre ma réponse, mais en fait, c'est pas une nouvelle définition.
C'est ça.
C'est okay. Ça, ouais.
Donc, c'est vraiment une définition... elle est même pas une bonne définition. Parce que je peux vous dire que la définition de voix juive de l'antisémitisme est beaucoup plus complète et précise que la définition proposée ici. C'est ce qui est nouveau, si on veut dire, c'est les conditions actuelles politiques qui font en sorte que ça puisse... Israël a peur. Si je peux le dire aussi clairement que ça, Israël a peur. C'est comme tout État qui, a, sans embâge, sans difficulté, a pu instaurer un régime d'apartheid, okay, parce qu'il faut le dire comme
ouais,
c'est.
Oui.
Donc c'est, mais sans être nullement dérangé. Par aucune loi internationale, ils ne sont
toutes les résolutions de l'ONU sont pas respectées.
Merci, toutes les
effectivement. Non, c'est ça passe comme
ils ont un appui,
d'un canard,
oui, un appui sans équivoque de des États-Unis et même la France. Là, il faut y aller. C'est pas donc c'est ça qui est nouveau. Ok, c'est nécessaire maintenant d'attaquer de cette façon-là. Parce que, bon, à un moment donné, on est arrivé avec... on n'a plus d'outils.
Oui, il faut dire qu'Israël aussi se prétend être la seule démocratie du Moyen-Orient, du Proche-Orient, démocratie à l'occidentale, on pourrait dire, et ils jouent beaucoup là-dessus pour dire que leurs politiques sont justifiées, que c'est pas vrai que c'est un État ethnique ou un État...
Là, malheureusement, la réalité est complètement différente,
voilà,
parce qu'il s'agit d'une théocratie maintenant, parce que c'est pas simplement un État juif, c'est un État... pour des juifs seulement.
Tout à fait.
Okay? Ça c'est très clair. Donc ça aussi ça fait partie de c'est au fait c'est, on est devant une situation d'une maladie sociale politique. Donc ça fait en sorte que bon on sort tous les outils possibles et imaginables.
Ouais.
Donc clore la discussion c'est une des meilleures façons.
Une
de,
raison, ouais.
Voilà. Donc, la lutte au Canada, en ce moment, est extrêmement serrée.
Oui. Ah ben oui, au Canada,
niveau-là.
Ouais. On a vu sous les conservateurs au fédéral, entre autres, qu'il y avait eu beaucoup d'avancées. Les libéraux font un peu la même chose.
Et en Ontario, maintenant, le NPD a réussi à faire en sorte que la
fameuse définition.
La définition, merci. la loi 168 passe. En Ontario. Donc, ça a été adopté grâce à l'NPD.
À l'NPD.
Oui.
Donc, c'est un problème, oui. Ça, je comprends.
C'est un problème.
Est-ce qu'on peut dire aussi, juste pour parler de BDS, deux petites minutes, si Israël, comme vous dites, et ses alliés ont peur un peu des campagnes internationales, des appuis à la cause palestinienne, est-ce que c'est parce que BDS fonctionne aussi? Le boycott, entre autres, depuis quelques années, au niveau académique, entre autres, au niveau culturel, fonctionne de plus en plus?
Ça fonctionne effectivement de mieux en mieux, et justement, c'est pour ça que d'appuyer le BDS est considéré maintenant et nommé antisémite. Alors, mais malgré tout ça, je pense que comme pour le BDS est vraiment le lieu de la lutte qui vraiment fonctionne le mieux.
Ouais, au niveau international en plus,
oui.
c'est des pressions intéressantes. Ouais. Ouais.
Mais,
peut-être qu'on peut rester sur cette idée de BDS, partir un peu en musique, et puis dès qu'on revient, on pourrait revenir peut-être sur la campagne boycott des investissements sanctions. Alors Simon, tu nous pars ça.
The Orange Man spoke, promised the city away. the blue of our skies. The orange man spoke, he promised the city away the blue of our skies, said quickly, God knows best. A God with a tendency to speak to white folk, make them promise what never belonged to them in the first place. A God trading in history on the open market. So the orange man spoke, asked us to follow him to the slaughter, sign the deed to our cemeteries, take our dead elsewhere. He spoke of reality and facts on the ground, promised peace if we could only dance to the gods of skyscrapers and bulldozers, surrender the heavens, be thankful for crumbs, for the meek shall inherit the rubble, for the meek shall inherit the rubble. Orange man, keep your god of skyscrapers and promised land, your god of emperors and unholy alliance. Our faith is a child handcuffed and surrounded by soldiers. Our divine is a woman clutching a rock. We pray to the god of poetry fighting in the alleys of the old city. We pray to the god of poetry in every breath in Jerusalem. We fight.
Alors, on vient d'entendre Rafif Ziada avec une création Spoken Words qui s'intitule In Jerusalem. La musique était par Phil Mansour et c'est une création de Spoken Words que Rafif Ziada a fait, en fait, après que Donald Trump ait annoncé que les États-Unis reconnaissaient Jérusalem comme la capitale d'Israël. Donc, on est tout à fait dans le sujet avec notre invité. Je vous rappelle qu'on est avec Fabienne Présenté de Voix juive indépendante.
Oui. Donc, tu voulais-tu y aller, Marie-Ève, avec
bon, vas-y,
une... Vas-y, c'est beau. Je voulais parler un petit peu, de vu que c'est dans l'actualité récente, de la fameuse liste de l'ONU, des compagnies entreprises complices de la colonisation, donc des compagnies israéliennes et des compagnies internationales. Oui. La liste est sortie le 15 février dernier, donc c'est assez récent, un peu plus que deux semaines. Une liste qui date de 2016, mais que les États-Unis dont les États-Unis bloquaient la sortie depuis tout ce temps-là. Et on a même dit qu'ils attendaient d'annoncer le fameux deal du siècle, plan de paix, avant qu'elle soit publiée, mais elle a été finalement publiée par le commissaire aux droits de l'homme. On dit encore le droit de l'homme à l'ONU. Donc de l'ONU. Une liste qui comprend 112 entreprises. Donc, surtout israéliennes, mais des compagnies françaises, des compagnies européennes, américaines,
évidemment.
Et puis,
il y a des compagnies canadiennes.
Des compagnies canadiennes que je n'ai pas vraiment vues, d'ailleurs. Je ne sais pas si tu as, Fabienne, tu as
pu... Écoutez, je peux vous dire, bon, il y a des compagnies de Ritmans, Indigo, SodaStream, c'est quand même, c'est américain, mais bon, ça existe ici.
Très présent ici, oui.
Très présent. Dasani.
Dasani, ouais.
L'eau Dasani, ça c'est Coca-Cola, mais bon, c'est quand même ça. Donc, il y a toute la question des vins qui viennent des colonies, c'est très important, parce qu'au niveau de la SAC, le SAQ, on a fait quand même une campagne assez intéressante d'étiquetage, et on a pu, non pas ici au Québec, mais... à Winnipeg, au Manitoba, on a pu retirer, justement, grâce à notre travail, les vins qui viennent des colonies israéliennes. Et en dernier, tout dernier, c'est le CAE.
La compagnie CAE à Montréal, qui font des
armements, enfin
simulateurs de vol surtout, sont connus à Saint-Laurent.
Simulateurs de vol, et puis eux aussi sont justement une de ces compagnies. Donc voilà.
Mais il y a beaucoup de gens qui disent que cette liste-là de 112 entreprises, elle est vraiment incomplète parce que plusieurs entreprises, ça date de 2016 premièrement. Il y a des entreprises qui sont reliées plus indirectement par le jeu des filiales ou des maisons mères.
Oui.
Il y a des compagnies, c'est plus secrets parce que c'est des secrets, mais c'est des contrats militaires. Donc, il y aurait beaucoup plus que 112 compagnies dans les
Complètement, fêtes. Tout à fait. D'ailleurs, quand on regarde ces compagnies, comme vous avez bien dit, il y a les filiales, donc il faut les retracer. Donc, c'est un travail de titan, vraiment, d'arriver à tracer tous ces, tous les filiales, toutes les compagnies qui, effectivement, participent à la colonisation israélienne de la Palestine et surtout aujourd'hui de l'essor des colonies.
C'est fou.
Ouais. C'est voilà, il reste presque plus de la Palestine que je connaissais même il y a quelques années.
Ouais.
C'est, il s'agit pas de 20 ans là.
Non, non, mais c'est allé vraiment à la vitesse grand V là, depuis les 4-5 dernières années. C'est
Donc malgré la lutte qu'on peut mener avec BDS, par exemple, BDS Québec a été extrêmement influent en ce qui concerne Hydro-Québec et le fait qu'on a retiré quand même le contrat de Hydro-Québec avec Israeli Electrical Commission. Bon, on continue, mais malgré cela, bon, il faut quand même. Nous, on ne peut pas arrêter. Hein.
Non, non, je comprends.
On ne peut pas arrêter. Hein.
La définition officielle des compagnies de l'ONU, du Comité des droits de l'homme, c'est que c'est des compagnies qui ont directement ou indirectement permis la construction et la croissance des colonies de peuplement, les ont facilitées ou en ont profité. Et on parle de crime de colonisation, qui est considéré comme un crime de guerre en droit international. Donc ça, c'est, je voulais le préciser quand même. On parle de compagnies comme Airbnb, comme TripAdvisor, comme Alstom.
Booking.com. Bon, Alstom, Veolia, c'est fini, mais...
General Mills... puis des compagnies qui seraient oubliées, on parle entre autres des grosses compagnies, on parle de Hewlett-Packard, Hyundai, Caterpillar, Heidelberg Cement, Cemex, G4S, donc des grosses compagnies entre autres dans la technologie. Donc c'est sûr qu'il y a un travail à continuer là-dessus et la question c'est qu'est-ce qui va arriver à ces compagnies-là? Est-ce qu'ils vont pouvoir être poursuivis? Est-ce qu'ils vont pouvoir être ennuyés, disons, d'une façon ou d'une autre?
C'est on voudrait bien, on essaie au moins avec la campagne BDS de les ennuyer, si on peut dire. Je sais que Voix juive, on a quand même, et comme beaucoup d'autres organismes à travers le monde, il nous faut l'argent. Pour pouvoir engager les avocats, on a quand même réussi avec le Fonds national juif à quand même inquiéter le Fonds national juif, mais vous avez très bien dit, on les inquiète.
Mm-hmm.
Pour le moment, on les arrête pas.
Ouais, ça les dérange pas à ce point-là. Non,
puis comme vous dites en plus, c'est que si T'sais, je veux dire, s'il y a un peu, il y a quand même une impunité d'Israël avec la construction. C'est pour ça que c'est allé si vite aussi de ces dernières années. C'est que Israël a pu multiplier la construction de colonies supplémentaires malgré les ce qui a été adopté à l'ONU ou malgré toutes les motions
toutes
de
lois internationales
les colonies. Donc c'est même l'image, tu sais, même si on voulait s'attaquer à l'image en rendant public le fait que ces compagnies-là profitent, soutiennent et la colonisation d'Israël de la Palestine. Qu'est-ce que ça, tu sais, elles peuvent s'en foutre un peu dans le sens où, c'est pas si mal vu que ça a l'air à l'échelle internationale,
Il y a quand même, je pense que vous le connaissez aussi bien que moi, cette longue histoire qui est, il y a les raisons pour lesquelles Israël est quand même un cas assez particulier au niveau de la protection dont elle bénéficie.
Oui, tout à fait.
Mais bon, ça c'est un autre sujet, on s'entend.
On va tranquillement terminer, Fabienne. Peut-être dire aussi, on parlait de colonisation, de construction de colonies, mais on peut parler aussi de démolition de villages ou de maisons de Palestiniens, palestinienne, de famille. Oui. Et je fais un petit lien facile, tu vas voir, avec Céline Dion qui va jouer à Tel Aviv au mois de août prochain, je pense.
C'est août, oui.
Août prochain, sur un terrain où était un village palestinien à l'époque de la Nakba en 47-48. Et il y a une campagne internationale pour lui demander d'annuler son concert à Tel Aviv. Et j'imagine que vous êtes d'accord avec ça.
On est d'accord. Voix juive appuie effectivement tous les efforts de BDS à ce niveau. Donc, on est avec nos alliés de BDS Québec. C'est clair qu'on fait ce qu'on peut au niveau de sensibilisation, conscientisation, pétition et de militantisme pour justement essayer d'influencer tout ce qui est autour de Céline Dion. Parfois, on réussit. Si on peut faire en sorte que Roger Waters, quand même, qui est un grand allié, puis, et il le fait parfois, qui est d'intervenir
auprès de certains artistes.
Bon, je n'ai pas dit ici que c'est ça qu'il va faire.
Non.
Avec Céline Dion, on s'entend.
Mais il l'a déjà fait dans le passé,
oui. Oui, il l'a déjà fait dans le passé. Donc, effectivement, on soutient nos alliés, mais voilà. On ne sait pas si vraiment ça va pouvoir faire en sorte que...
Ça serait très symbolique, par exemple, c'est sûr. C'est une grande vedette.
Oui, puis en plus, c'est Céline Dion, c'est le Québec. Ouais. Québec et la Palestine, on a quand même un lien assez particulier.
Ouais.
Et ça serait dommage qu'elle fasse fi de ces liens.
Ouais, on va checker une pétition. Il y a une pétition qui circule, donc allez vous informer. Donc, en terminant, Fabienne, on disait hors honte qu'il y a 17 pays qui ont adopté la définition de l'IHRA. Et vous continuez votre campagne au Canada parce qu'il y a d'autres villes déjà qui avaient refusé, dont je pense Calgary, Vancouver. Mais ça va revenir ailleurs, j'imagine. Ça peut revenir à Montréal.
Et ça peut, vous avez raison, c'est pas fini à Montréal. Côte-Sainte-Luc, ils l'ont adopté. Amsterdam l'a adopté.
Les petites villes,
donc, voilà, on y est encore.
OK. Ben merci beaucoup Fabienne d'être passée, ça passe super vite, c'était super intéressant. On aurait pu parler de plein d'autres enjeux autour des questions Israël-Palestine entre autres, mais vous avez un site internet pour toute l'information.
Oui, donc vous pouvez trouver VGI, Voix juive indépendante.ca.
Parfait, donc merci beaucoup Fabienne pour ce passage, ça a très bien été. Et puis on va aller à quelques notes de musique et ensuite Marie-Ève, tu reviens avec les actualités internationale. D'autres actualités internationales.
Voilà.
Merci.
Toujours les apatrides anonymes, Marie-Ève au micro pour les actualités internationales. On va commencer par parler aujourd'hui des villes refuges ou sanctuaires aux États-Unis. Vous savez, ces municipalités qui refusent d'arrêter massivement les personnes migrantes en situation irrégulière et qui limitent aussi leur coopération avec les agents fédéraux responsables de l'immigration. On se rappellera que dans la foulée de l'élection de Donald Trump, des dizaines de municipalités ou juridictions locales américaines s'étaient déclarées villes sanctuaires pour les personnes immigrées, parmi lesquelles New York, San Francisco, Chicago, Boston, Los Angeles, Philadelphie, Seattle et Washington. Aujourd'hui, on estime leur nombre à près de 300. On se rappellera également qu'en 2017, Donald Trump avait signé un décret qui empêche les villes refuges de recevoir des fonds provenant du Bureau des programmes relatifs à la justice, un décret pour les forcer à respecter les ordonnances fédérales en matière de traitement des sans-papiers. Par exemple, ce décret-là va les obliger à avertir les autorités fédérales de la libération de sans-papiers détenus dans des prisons locales, et ce, 48 heures à l'avance. Les policiers municipaux doivent aussi mettre leurs installations à la disposition des autorités nationales pour y questionner des suspects. Ça, c'est quelques, c'est seulement le deux des éléments qui se retrouvent dans ce décret-là. Il y a sept États et la ville de New York qui avaient contesté le décret devant les tribunaux et une cour de New York leur avait donné raison en 2018. Il y a eu trois autres cours d'appel fédérales à Chicago, Philadelphie et San Francisco qui ont également bloqué en tout ou en partie l'application du décret. Les villes refuges qui contestent le décret estiment qu'il va à l'encontre de la Constitution parce que, selon elles, la Constitution confère aux États, mais aussi aux gouvernements locaux puis aux agences de maintien de l'ordre, une large marge de manœuvre puis une autorité, en tout cas, pour pas participer à l'application de la loi fédérale sur l'immigration. Elles disent aussi ne pas avoir la place ni les moyens de retenir les personnes migrantes en situation irrégulière jusqu'à ce qu'ils soient appréhendés par la police fédérale. Donc, elles considèrent, dans le fond, que le décret force les villes à choisir entre l'application des droits constitutionnels de leurs citoyens et citoyennes, y compris les sans-papiers, et le financement des forces de l'ordre. Puis il y a plusieurs villes aussi font valoir que le décret va à l'encontre de leur propre politique municipale qui vise à promouvoir la coopération entre les autorités locales puis les communautés immigrantes. Et donc, que dans le fond, la rhétorique et les menaces qui sera derrière ces nouvelles conditions-là qui sont imposées à des fonds publics alimentent une culture et un climat de peur. En 2017, à l'époque de tout ça, il y avait le procureur général de l'époque, Jeff Sessions, qui avait affirmé que les politiques des villes-refuges menaçaient la sécurité publique et mettaient en danger les policiers en les forçant à arrêter de nouveau des criminels qui ont été relâchés. Selon lui, l'administration Trump, je rouvre les guillemets, ne subventionnera tout simplement pas des villes qui violent fièrement l'état de droit et protègent les immigrants illégaux au détriment de la sécurité publique. Donc ça, c'était comme pour vous remettre quand même un peu dans le contexte parce que il s'est passé quand même pas mal de choses depuis 2017 là-dessus. Puis là, mais la raison pour laquelle je reviens sur ce sujet-là aujourd'hui, c'est que l'administration Trump avait porté en appel la décision de 2018 de la Cour de New York. Et là, à la fin du mois de février, là, il y a quelques semaines, il y a trois juges qui ont rendu un verdict unanime, donc, contre la ville de New York et les États de New York, Connecticut, New Jersey, Washington, Massachusetts, Virginie et Rhode Island. Donc, le tribunal donne raison à Washington en disant que Washington a le droit, finalement, de couper le financement aux villes-refuges. Puis selon l'agence Reuters, c'est près de 3 millions de dollars, pardon, pas 3, 30 millions de dollars en subventions annuelles qui sont en jeu pour ces États que j'ai nommés. Juge qui a écrit la décision estime que les conditions qui sont imposées par le décret aide, en fait, le gouvernement fédéral à appliquer les lois puis les politiques nationales en immigration, mais encore plus, elles garantissent que les demandeurs satisfont aux exigences légales en matière d'autorisation imposée par le Congrès, soumise aussi au contrôle du procureur général. Et elle dit que le décret n'empiète pas sur les pouvoirs réservés aux États. C'est vraiment la première... il s'agit du premier tribunal fédéral qui tranche en faveur de l'administration Trump dans les contestations judiciaires, ce qui fait dire à l'American Civil Liberty Union que cette décision-là est vraiment en rupture totale avec tout ce qui a été décidé à l'unanimité par les tribunaux et les juges de tout le pays auparavant. C'est-à-dire que le décret est illégal. Le dossier, ben lui, risque d'aboutir en Cour suprême, ce qui est souvent appelé à trancher contre les tribunaux d'appel, arrive à des conclusions différentes, là, ce qui est le cas présentement.
Peut-être juste pour rappel, Marie-Ève, là, c'est une décision de juge de quelle instance actuellement qui vient briser les anciennes décisions?
D'une cour d'appel.
D'un État, c'est ça?
Oui.
OK, parfait.
C'est ça.
Est-ce qu'on sait si le financement à date il a été coupé ou vu que c'est une saga judiciaire, c'est toujours en suspens? Ou est-ce que les villes ont vraiment, ou les États ont vraiment souffert aussi de...
Oui, les villes ont souffert de ça. Ouais.
OK.
Dans le fond, c'est que les subventions ont été suspendues depuis.
OK, merci.
Ouais. Donc, on va suivre le dossier parce qu'évidemment, il va y avoir d'autres développements dans ces choses-là. Je vais vous parler également de... on va tourner vers l'Europe. On le sait, les visas constituent un élément essentiel de la politique migratoire des États membres de l'Union européenne, hein, qui leur permet de sélectionner les personnes étrangères qui veulent attirer, soit les touristes et les travailleurs très qualifiés, et écarter celles et ceux qui désignent comme une menace migratoire. Obsédé par l'amélioration des taux d'expulsion, l'Union européenne et ses États membres développent toujours des nouveaux instruments politiques pour inciter les pays non européens à participer activement au retour des personnes qu'elles souhaitent maintenir à l'écart du territoire européen. Comme on va le voir, le nouveau code des visas Schengen, entré en vigueur le 2 février dernier, fait partie intégrante de ces instruments-là. Le visa Schengen, pour expliquer un peu, est sans aucun doute l'un des visas les plus célèbres du monde et un des plus intéressants à avoir, si on veut, parce que il permet à la personne qui le détient de voyager dans 26 pays européens, dont 22 faisant partie de l'Union européenne. Actuellement, il y a les voyageurs de 104 pays et entités doivent obtenir un visa pour rentrer dans l'Union européenne pour des séjours qui vont jusqu'à 3 mois dans l'espace Schengen. Les principales modifications qui ont été annoncées, bon, il y en a qui sont qui vont de soi, ou en tout cas qui n'y a pas de gros impact, mais il y en a deux sur lesquels je veux plus revenir. C'est que le nouveau code des visas Schengen, il prévoit de procéder à l'évaluation au moins une fois par année du degré de coopération des États non européens en matière de réadmission. C'est-à-dire que le résultat de cette évaluation-là va permettre d'adopter une décision de facilitation de visa pour les bons élèves ou, à l'inverse, d'imposer des mesures de restriction aux mauvais élèves. Par exemple, les visas vont être augmentés de 80 euros pour un adulte et à 40 euros pour un enfant âgé de 6 à 12 ans. Sauf que le nouveau code introduit un mécanisme qui va examiner tous les 3 ans si les frais de visa doivent être changés ou rester les mêmes. Par exemple, le prix va pouvoir atteindre 160 euros si l'État d'origine est particulièrement peu coopératif, ou à l'inverse, être rabaissé à 60 euros pour les ressortissants d'un État dit coopératif. Mm-hmm. Donc, la réforme, dans le fond, ce qu'elle fait, c'est qu'elle renforce les inégalités en matière de circulation en créant un accès au visa à plusieurs vitesses en lien direct avec le degré de coopération des États. Une autre mesure qui reflète cette politique-là de carotte et du bâton, c'est celle qui la possibilité de réduire les délais de traitement aussi pour les bons élèves ou de réduire ou allonger les durées de validité des visas. Le nouveau règlement ouvre aussi la porte à des exigences de justificatifs différents selon le pays là, depuis lequel est introduit la demande de visa. Donc, les justificatifs plus nombreux vont pouvoir être exigés d'une personne qui vit, par exemple, dans un pays dont la France souhaite ne pas recevoir de ressortissants. Et finalement, il y a aussi ce que la réforme vient faire, c'est que le recours à des consulats et à des sociétés sous-traitantes qui étaient jusqu'à maintenant autorisés juste en dernier ressort, ça va être encouragé. Et également, ce qui est une entrave en fait, parce que les sous-traitants souvent ils vont facturer jusqu'à 2 fois le prix du visa dans le pays. Donc, en passant, évidemment, les sous-traitants profitent de l'augmentation générale des frais de visa. Mais ce qu'on peut dire de cette nouvelle réforme du visa Schengen, c'est que ne fait que renforcer la forteresse Europe.
Et aussi les sous-traitants.
Hein? Oui, c'est cela. C'est cela. Alors, on va en musique.
Taiyo ga shizumi, harukaze ga jinsei no omoide o naderu yo ni, tamashii ga karada o hanarete iku no o kanjiru. テレラプトールに敗れ、わしは後悔せずに行く。
D'entendre le nouveau duo de rap français Téléraptor, mesdames et messieurs, avec la pièce Ichibang, tirée de l'album Bestiality, paru en janvier 2020, toujours sur les ondes de choc.ca avec les apatrides anonymes et avec Simon.
Allô.
Qui va se transformer sous nos yeux en vulgarisateur de Statistique Canada.
Ouais, je vais essayer d'être pas trop lourd. Il y a beaucoup de chiffres qui s'en viennent. Deux rapports, donc je vais essayer de vous parler en 3-4 minutes chacun. Donc, c'est pas vraiment des nouvelles. Je vais commenter, évidemment, ces rapports-là, ajouter la petite touche apatridesque. Tantôt, je vais vous parler du projet, du portrait global de l'immigration au Canada en 2019, qui est une année record, soit dit en passant. Mais avant d'en arriver là, en premier, je vais m'attarder sur un autre rapport très intéressant qui s'appelle « Portrait socio-économique de la population noire au Canada ». C'est assez facile à trouver en ligne si vous voulez consulter. Donc, ça arrive des fois à StatsCan de sortir des analyses un peu plus poussées sur certaines thématiques. Donc, ce rapport-là sur la population noire canadienne a été publié dans le cadre du mois de l'histoire des Noirs, qui, je le rappelle, est en février chaque année. Les données sont basées sur le recensement de 2016 et s'attardent environ à la période qui va de 2001 à 2016 pour, parce que juste prendre une année, c'est comme un flash, là, on prend
c'est pas
période.
Assez représentatif. De...
C'est ça. On veut essayer de dégager des tendances où est-ce qu'il y a des augmentations, des diminutions de tels facteurs. D'abord, statistique très générale, il y a 1,2 million de personnes noires au Canada. 4 personnes noires sur 10 au Canada sont nées au Canada. 6 sur 10 sont immigrantes, donc ne sont pas nées au Canada. C'est un rapport dont les conclusions sont un peu déprimantes. On constate des écarts importants au point de vue de la scolarité, du point de vue de l'emploi, des salaires surtout. Peu d'évolution dans la période observée qui couvre quand même 15 ans. Donc, pas tant d'améliorations au fil des années et même certaines régressions. Donc, je vous préviens tout de suite. J'ai essayé de comprendre à quel point la population noire au Canada est une immigration ancienne ou récente. une immigration plus récente peut permettre des fois d'expliquer que, bon, il y a moins d'intégration à l'emploi, il y a des gens qui se reforment, une nouvelle formation académique, donc ça pourrait évidemment pousser les données vers le bas. De ce que je comprends des chiffres de Statistique Canada, la plupart des jeunes noirs, donc j'ai pas la tranche d'âge, mais sont très majoritairement nés au Canada et inversement, leurs parents sont très majoritairement nés à l'extérieur du Canada. Donc c'est une immigration qui en moyenne atteint le cap d'une génération.
Ouais.
Donc difficile de dire, ben c'est parce que c'est des tout nouveaux arrivants, c'est pour ça qu'ils n'ont pas encore intégré le marché de l'emploi, c'est pour ça que leurs conditions socio-économiques ne sont pas encore près de la moyenne. On peut pas dire ça, malheureusement. On aurait vraiment plus affaire à des phénomènes peut-être plutôt systémiques, puisque les écarts observés sur la rémunération, le taux de chômage, touchent autant les jeunes noirs nés au Canada, donc qui ont été formés dans le système scolaire québécois, par exemple. Pire, l'enquête montre clairement qu'au niveau de l'emploi, de la rémunération, les écarts entre les Noirs et le reste de la population ont augmenté, malgré la hausse du niveau de scolarité des Noirs. Donc, on aurait tendance à penser qu'une hausse du niveau de scolarité induit automatiquement une hausse de ses conditions économiques, mais dans le cas des personnes afro-canadiennes, je ne sais pas si c'est ça, ben c'est pas le cas. Par exemple, de 2001 à 2016, le taux d'emploi des femmes noires est demeuré stable à 71%, alors que chez les autres femmes du même groupe d'âge, qui ne sont pas noires, il est passé de 72 à 75%, donc un certain écart. Autre statistique révélatrice, à peu près 50% des jeunes hommes noirs obtiennent un diplôme d'études postsecondaires comparé à 62% de la moyenne pour les jeunes hommes canadiens non noirs, si je peux m'exprimer ainsi. Les écarts sont moins prononcés, par contre, entre les jeunes femmes noires et les autres femmes. On constate aussi que le salaire des Noirs, leurs salaires n'ont pas augmenté aussi rapidement que le salaire des autres travailleurs. Donc, à Montréal, plus spécifiquement, il y a un écart de 16 000 $ entre le salaire moyen des Montréalais Noirs, qui s'établit à 34 000 $ et celui des autres travailleurs des métropoles, qui est à 50 000 $ Donc, c'est une différence quand même marquée, différence de 32%. Même chose chez les femmes. Le salaire moyen des femmes noires est de à peu près 31 000 $ beaucoup moins élevé que celui des autres femmes montréalaises, qui est à peu près à 40 000 $ donc environ 22% d'écart ici. Beaucoup de chiffres, je suis désolé, mais c'est des chiffres qui permettent quand même
Non, mais c'est quand
de
même
mesurer,
des chiffres assez parlants, en tout cas, pour que, tu sais, on peut visualiser l'écart, là, tu sais.
Ouais, puis c'est pas un écart de 1%, là.
Non, c'est
quand
ça.
Même des écarts. Moi, j'étais surpris, c'était plus important
c'est
que j'allais penser. Si on pousse un peu plus les comparaisons, on constate que les femmes noires gagnent en moyenne 20 000 $ de moins que les hommes canadiens. Donc, être femme et noire, c'est pas mal la catégorie la plus handicapée.
Ben oui, c'est l'analyse intersectionnelle. Hein?
Effectivement,
c'est pas une vue de l'esprit.
Exactement. Le taux de chômage global à la fin de la période observée, 11 % de chômage pour les personnes noires versus 6 % dans la population canadienne. Donc, pratiquement le double du taux de chômage chez les personnes noires. Donc, l'économie canadienne a quand même changé dans les 4-5 dernières années. Il y a eu une inversion des pôles d'emploi qui reviennent de plus en plus vers l'Est, au Québec, en Ontario, par rapport à l'Ouest. Et l'Ontario et le Québec sont les endroits où il y a le plus de Noirs au Canada. Donc, peut-être que ce 11 % de chômage-là est plus tout à fait exact aujourd'hui, mais pendant 15 ans, c'était quand même le double du taux de chômage pour la période observée. Pour conclure le portrait statistique sur la population noire au Canada, je dirais que ça prendrait des mesures plus fortes pour favoriser une meilleure égalité des chances pour tout le monde, évidemment. J'ai pas fini de vous assommer avec des chiffres. Je vais vous parler de l'immigration au Canada en général en 2019. C'est quand même un thème très cher aux apatrides anonymes.
Oui.
Quelques surprises. D'abord, bon, je disais, c'est une année record. 341 000 personnes immigrantes au Canada en 2019. Puis quand je dis personnes immigrantes, c'est des personnes qui ont reçu un statut, là.
Oui,
donc, c'est
okay.
pas des personnes qui viennent faire une demande, là.
Okay.
Ça peut être une demande qui a été faite il y a 10 ans dans certaines catégories.
OK. Les immigrants reçus.
Donc, oui, c'est ça. Ouais, ça peut être la résidence, ça peut être le statut de réfugié, ça
ouais,
peut
c'est
être
ça.
C'est ça. Les objectifs initiaux étaient de 320 000, donc finalement, ça a été un peu plus, peut-être à cause des délais de traitement qui ont augmenté, qui se sont légèrement améliorés. Je sais pas, le rapport le précise pas, c'est une supposition. Ça fait seulement depuis 2016 qu'on est au-dessus du cap de 300 000 immigrants par année au Canada, sauf une exception, 400 000 immigrants en 1913. Record qui n'a jamais été battu. Je pourrais pas expliquer pourquoi tant d'immigrants en 1913. Je pense que c'est juste avant les quotas.
En tout cas, c'est juste avant la Première Guerre mondiale, je sais pas trop, en tout cas.
Ouais, c'est l'immigration beaucoup européenne. Ouais. On était en pleine révolution industrielle. Mm. C'était peut-être l'attrait de tous les emplois à New York, à Montréal, dans les bassins industriels. Les ports de Halifax, de New York, recevaient quotidiennement des bateaux remplis d'immigrants européens. Mm. Pour s'installer dans le soi-disant Nouveau Monde. Mais bref, c'est de 2019 dont je vais vous parler. De quel pays proviennent les personnes immigrantes le plus? Je pose la question. Ah, oh, Marie-Ève fait une face pas sûre.
Je sais pas.
De plus et de loin, c'est de l'Inde. 85 000 personnes viennent de l'Inde, ont été reçues cette année ou ont obtenu un statut. Je vais en nommer quelques-uns comme ça. Ensuite vient la Chine, à 30 000 personnes, les Philippines, 28 000, Nigeria, 13 000, États-Unis, 11 000. Je sais pas si c'est le statut de réfugié. Ensuite, pour compléter le top 10, Pakistan, Syrie, Érythrée, Corée du Sud et Iran. Les différentes catégories sont dans quelle proportion? Donc, 60 % immigration économique, 27 % le parrainage, 15 % le statut de réfugié, ce qui nous donne à peu près, si j'ai fait un calcul rapide, là, je me rappelle de mes règles de 3, ça fait à peu près 51 000 personnes acceptées comme réfugiées, donc que le commissaire leur a accordé le statut de réfugié. Mmh. Donc, moi, je trouve que c'est peu. Personnellement, un pays grand comme le Canada, 51 000 réfugiés, on peut probablement faire mieux. Où les personnes s'installent-elles? Donc, 40 % environ 150 000 en Ontario, 50 000 Colombie-Britannique, 43 000 en Alberta, donc plus que le Québec, malgré une économie qui est au ralenti depuis 2019. Le ralentissement économique albertain était déjà bien entamé. 40 000 au Québec, donc on passe de notre habituelle deuxième position à la quatrième position, en conformité avec les baisses des seuils d'immigration de François Legault et du gouvernement de Québécois. Donc, bravo pour affaiblir le poids démographique du Québec dans le Canada. C'est ça, le nationalisme de la CAQ, j'imagine.
Puis après ça vient parler de péréquation.
Ah, je pense que leurs calculs sont un petit peu élastiques. La panne de la ville qui accueille de loin le plus d'immigrants, c'est Toronto. La grande région de Toronto, avec une personne immigrante sur trois qui choisit de s'y installer, avec 118 000 personnes. Donc, le Toronto accueille plus que le Québec, l'Atlantique, le Manitoba, la Saskatchewan et les trois territoires réunis, et remporte la panne de la ville en Amérique du Nord, avec Vancouver en deuxième position, que au prorata, la plus grande population immigrante
capacité d'accueil, ouais,
c'est ça, qui s'installe dans une région métropolitaine. Aux États-Unis, juste pour faire une petite parenthèse, c'est dans l'ordre, c'est New York, LA et Miami qui en accueillent le plus. New York en accueille un peu plus que Toronto, évidemment. Je pense que c'est autour de 178 000 à peu près, mais pour une population quatre fois plus grande. Donc, en proportion, Toronto, vraiment, bravo, là, toute une progression. Ça risque d'être la plus grande ville du monde d'ici 50 ans, là, plus que Lagos et Tokyo. Je me demande quels effets ça va avoir sur le logement. On me fait des faces. Mais c'est ça, explosion quand même démographique, Vancouver-Toronto, avec des problèmes de logement assez graves. Donc, les gouvernements se penchent sur cette question-là.
Ben surtout si, en plus, on fait un portrait des populations noires ou des populations migrantes en général, on sait très bien que les salaires suivent pas. Donc, il y a un problème à un moment donné.
Il y a un problème. On sait même pas comment les gens vont arriver à se loger. Là.
Ben, mais écoute, merci Simon d'avoir épluché de façon si savante ces deux rapports de Statistique Canada. C'est déjà tout pour cette édition des Apatrides Anonymes du 12 mars. Ça passe trop vite. Merci Simon et Mathieu, à vous deux.
Merci Marie-Ève pour cette animation exemplaire.
Je seconde Marie-Ève, c'était très très bon.
Merci encore une fois aussi à Fabienne de...
Fabienne Présenté.
Présenté, oui, de Voix juive indépendante qui était avec nous en entrevue. Je vous rappelle que vous pouvez nous suivre en balado sur la page de notre émission sur le site site de choc.ca. Vous pouvez également visiter notre site web qui est apatridesanonymes.info et vous pouvez également nous suivre sur Facebook, comme toujours. On y met à la fois nos émissions, mais aussi des nouvelles en lien avec le contenu de notre émission, soit qu'on en a parlé ou aussi des choses qu'on relaie dont on n'a pas nécessairement le temps de parler à l'émission. Donc, allez-y et partagez nos contenus allègrement. Prochain rendez-vous, donc, si y a pas l'apocalypse d'ici là, le 26 mars, donc, même heure, 18h30, même poste. Et peut-être pour vous dire que nous en profiterons pour essayer de souligner de façon... d'une façon ou d'une autre, le fait que ça fera un an que nous sommes en onde,
oui,
sur choc.ca. Alors, on va peut-être un petit peu célébrer notre premier anniversaire.
Il va y avoir des surprises.
Oui, on va essayer. Surprises.
On va mettre de la bière partout dans le studio.
Non.
Alors, merci à ceux et celles qui nous ont écoutés et puis à dans deux semaines.
Bonne fin de soirée.
Et on s'en va aussi en musique avec la formation Cursive et la pièce Horror is a Human Being de l'album Get Fixed qui est paru fin 2019. On me dit que c'est un vieux band indie du Nebraska. Alors, sur ces notes
indie. Du Nebraska?
Oui.